Donc je passe la parole à Roger Guenry.
Je n'ai pas préparé un exposé très structuré. Je comptais rebondir un peu sur ce que dirait Rémi Jeannin. Donc je vais commencer par rebondir, quitte à revenir un petit peu sur les difficultés de l'enseignement de SES, thème que j'avais abordé d'ailleurs lors des journées de l'APSES, si vous vous souvenez, qui permet de dire un certain nombre de choses qui sont dans notre rapport de manière peut-être un peu moins touffue. Alors, je vais réagir sur deux, trois points que vous avez dit avant de venir à ma deuxième partie. Premièrement, oui, notre rapport, vous avez fait beaucoup de références à l'analyse, je suis en général d'accord. En un mot, ce qu'on avait constaté sur la réussite, je mettrais quand même un petit bémol, c'est-à-dire qu'on trouvait que la réussite des étudiants de SES était bonne et même comparable à celle des S, peut-être pas tous les S, parce qu'il y en a une partie qui ne regrette peut-être pas, conditionnellement au fait qu'ils passent la première année. Donc il y avait quand même, à la fin, ceux qui avaient du mal à entrer dans le système universitaire en économie. Conditionnellement, au passage, je ne sais plus de la première ou de la première ou de la deuxième, c'était statistiquement comparable à ce qui se faisait ailleurs. Donc on avait évidemment regardé un peu toutes les statistiques et on avait essayé de faire une petite synthèse là-dessus. Donc je n'ai pas de problème. Deuxième chose, c'est un point que vous n'avez pas tout à fait abordé, je dois dire que cette question de qu'est-ce qu'on doit enseigner aux lycéens en sciences économiques et sociales, enfin qu'est-ce qu'on doit leur enseigner pour qu'ils comprennent un peu le monde social ou le monde économique, c'est pas une question franco-française. Alors je sais bien, il y a une dimension franco-française dans tout ce qu'on est en train de raconter, parce que la section SES a une personnalité qui est liée à son histoire, et dans des pays voisins on n'a pas les mêmes choses, mais je peux vous dire qu'il y a des débats qui ressemblent un petit peu à ceux qu'on a ici, il y en a aux États-Unis, hein, il y en a dans les pays scandinaves, il y en a en Angleterre, où on a fait une réforme qui ressemble un petit peu d'ailleurs à celle qui est en train de se profiler aujourd'hui et qui n'a pas spécialement réussi. Il y en a en Allemagne, hein, la question de savoir est-ce qu'on doit mettre plusieurs disciplines, etc. Est-ce qu'on doit faire de la sociologie, de l'économie, uniquement de l'économie. Ce n'est pas vraiment des débats franco-français, c'est des débats qui ont un écho. Hein, en particulier, sans qu'on revienne sur le rapport des gens de l'Académie des sciences, ces gens venaient de pays différents et avaient tous des opinions sur la manière, sur ce qu'il fallait enseigner au lycée. Donc je crois que ça, c'est assez caractéristique. Je vais peut-être reprendre, parce que c'est peut-être une manière de faire écho au rapport sans revenir point par point dans le rapport, etc. J'avais fait un exposé devant, je ne sais plus, c'était des journées de l'APSES, donc l'Association des professeurs de sciences économiques et sociales, où notre rapport avait quand même, il faut quand même le dire, était relativement critiqué. Il y avait un peu des raisons. Quand on a sorti notre rapport, il y a eu une présentation par la presse qui était absolument catastrophique. C'est-à-dire que ce rapport était un rapport critique, mais c'est un rapport constructif, c'est un rapport modéré, etc. Il y a eu la une d'un certain journal assez influent sur ce rapport, disant que c'était une attaque en règle contre les sciences économiques et sociales. C'est absolument pas vrai. Et ça a évidemment conditionné un petit peu l'accueil qu'a eu le rapport dans le milieu des professeurs de sciences économiques et sociales, où il a fallu quand même un certain temps pour qu'il y ait vraie discussion autour de ce qu'on proposait. Alors, quelles sont les difficultés de l'enseignement de sciences économiques et sociales? Je crois que la première est évidente. Il parle du monde social, et le monde social, c'est un monde que les élèves ne connaissent pas nécessairement, mais que leurs parents connaissent, et sur lequel ils ont des opinions fortes. Si vous enseignez les mathématiques, personne n'a des opinions très fortes sur le théorème de Pythagore. Les parents d'élèves ont des opinions sur le monde et ces opinions, et dans le monde social, ces opinions ont une part légitime, hein, que ce que je dis souvent, hein, ce que j'ai le mieux compris sur ce qui se passait en Chine, c'est en écoutant certains de mes amis, parents d'élèves par ailleurs, qui me racontaient leur commerce avec la Chine. Il y a un vrai savoir, c'est un savoir légitime. Donc ça, c'est une première difficulté. Alors, il ne faut pas le sous-estimer, parce que les autres disciplines n'ont pas cette difficulté. Personne ne va remettre en cause ce que raconte le prof de physique. Alors, quand on va vers l'histoire, etc., ça peut être un peu différent. Bon. Deuxième difficulté, c'est un enseignement, alors là, si on revient à l'histoire, dans lequel on enseigne la sociologie, les sciences sociales en général, hein, c'est un enseignement de sciences économiques et sociales. Et ça, c'est une spécificité de cet enseignement, et c'est une spécificité auquel les enseignants sont très attachés, et leur attachement reposait en tout cas sur une foi qui était contestable. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un petit peu l'idée qu'il y avait une sorte de science sociale réunifiée, c'est la vieille utopie d'Auguste Comte, et qu'au fond, l'enseignement de sciences économiques et sociales au lycée, c'était un petit peu cette utopie, utopie dans le bon sens du terme, hein, que l'on mettait en œuvre et que l'on donnait une science économique et sociale. Alors, Là-dessus, notre rapport était relativement critique. Moi, j'ai passé une partie de ma vie universitaire à l'école des études en sciences sociales. Je connais pas mal de gens qui font des sciences sociales. J'ai beaucoup discuté. C'est un lieu où on discute avec beaucoup de gens qui font des choses différentes d'eux. Mais il n'y a pas dans l'état actuel, dans l'établissement dans lequel j'ai été, je n'ai pas vu qu'il y avait une science sociale réunifiée. Et je pense que cette utopie, elle n'est pas de mise. Alors, est-ce qu'elle deviendra un jour, j'en sais rien, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Troisième difficulté, alors c'est pour l'enseignement, je me mets comme enseignant de sciences économiques et sociales ou comme concepteur des programmes, c'est un savoir en mouvement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui apparaissent dans le monde savant, entre guillemets, et qui entrent dans le débat public assez rapidement. Par exemple, l'aléa moral, les asymétries d'information, c'est des choses. J'ai fait un article dans New Palgrave il y a 15 ans sur ce thème, moral hasard, quelque chose comme ça. À l'époque, ça n'avait aucun écho. Maintenant, si j'ouvre la télé, et que j'exagère un petit peu, mais si j'ouvre la radio, il y aura sur le moment de la crise, sur la discussion sur la crise financière, on parlera d'aléa moral. Donc, d'une certaine manière, il faudra peut-être en parler au lycée, hein, mais c'est d'un autre côté, c'est pas facile, etc. Donc, c'est un savoir mouvement, et c'est une difficulté. Par exemple, le fait qu'on ait démontré le théorème de Fermat n'a absolument pas changé le problème qu'on est professeur de maths. On est bien d'accord là-dessus. Alors, quatrième difficulté, le mouvement des savoirs dans le SES résulte, alors là, je parlerai surtout d'économie, hein, mais c'est vrai, en sociologie, de sa manière, d'une logique plus complexe que le mouvement du savoir des sciences de la nature. Par exemple, le débat de ma jeunesse, hein, j'ai baigné dans le débat Valrasso-Kénézo-marxiste ou Valrasso-Kénézo-marxien, hein, avec etc. Et ce débat, ce triptyque, tel qu'il existait dans ma jeunesse, a complètement disparu. C'est-à-dire que, par exemple, il y a toujours des keynésiens, mais ce qu'ils disent, ce que disent les keynésiens, j'aurais tendance, si on me demandait à revendiquer cette étiquette, mais je ne revendique aucune étiquette, mais on pourrait trouver des bonnes raisons de me la donner d'une certaine manière quand on lit ce que j'ai écrit. Il y a toujours des keynésiens, mais ce qu'ils disent n'a absolument rien à voir avec le keynésianisme hydraulique des années 50. D'une certaine manière, plus personne, ou presque, ne croit à une forme très schématique du keynésianisme qu'on a utilisée pour la pédagogie, hein, et qui contient évidemment une part de vérité, mais ça s'est sorti du débat intellectuel. Donc le débat intellectuel se modifie, etc. Et évidemment, il y a un risque que l'on revienne au débat du passé. Alors ça peut être un risque d'incompréhension entre ce qui se fait dans le secondaire et ce qui se fait dans le supérieur. Bon, alors il est vrai, oui, alors là, il y a une raison un petit peu plus profonde, hein, c'est que, par ailleurs, le savoir est un savoir d'intention scientifique. Moi, je ne crois pas que ce qu'on fait, c'est une science au sens strict du terme, c'est un savoir d'intention scientifique. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien, naturellement, un savoir d'intention scientifique. Il y a plein de choses dont on sait qu'elles sont fausses. Il y a plein de choses dont on sait qu'elles sont plausibles, mais non démontrées. Plein de choses dont on sait qu'elles sont vraiment très plausibles. Donc, il y a beaucoup de clair-obscur dans ce savoir d'intention scientifique. Et il y a aussi le fait que nous sommes d'un savoir qui est ce que j'appelle notre conception du monde. Alors, si en allant plus loin, je ne vais peut-être pas évoquer ça, quoi. Est dominé par ce que j'ai appelé par ailleurs l'effet saillant et traumatique. Et il est évident que la chute du mur de Berlin, la grande crise de 1929, dans notre perception du monde social, enfin je parle du monde économique, ont beaucoup plus de poids que beaucoup de faits beaucoup plus mineurs, peut-être beaucoup plus importants, mais beaucoup plus souterrains. Alors, tout ceci pour dire que je crois malgré tout que le savoir, alors je suis toujours dans le savoir économique, est un savoir cumulatif. On sait plus de choses sur la crise. Je ne veux pas dire qu'on comprend la crise, etc. C'est un sujet sur lequel on pourrait revenir. Malgré tout, on sait beaucoup plus de choses sur les mécanismes économiques qu'il y a derrière une crise financière que n'en savait Keynes. Ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord. Et les débats dans le monde intellectuel, comme vous avez pu le voir, enfin dans le monde savant, étaient particulièrement vifs. Voilà. Évidemment, tout ceci va avec le fait qu'il peut y avoir des grands... L'idée qu'il y ait une communauté scientifique dans le monde, c'est une idée qui est vraie. Vous pouvez la regretter ou ne pas la regretter. Il y a, d'une certaine manière, moi je préférerais qu'il y ait un oligopole de production du savoir plutôt que quelque chose, un vaste marché concurrentiel mondialisé, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Il y a vraiment un marché mondialisé de production des connaissances. Ça veut dire que ces gens sont d'accord sur la méthode, sur les outils. On peut, qu'on le regrette ou pas, sûrement l'état des savoirs aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord sur les conclusions. Sur les conclusions de politique économique. En particulier, il y a beaucoup d'effets d'optique. En particulier, les économistes qui s'intéressent à tel secteur, en général, il y a des mécanismes d'autosélection. C'est-à-dire que les conseillers du FMI sont des gens dont les thèses qui vont construire autour du FMI un genre de doctrine, de ceinture protectrice de l'institution, qui ne sont pas nécessairement représentatifs de l'ensemble de la profession des économistes. Voilà quelques difficultés que je voulais souligner et qui, en quelque sorte, sont en amont de ce qui est dans notre rapport. Donc, je terminerai pour dire deux, trois choses qu'il y avait dans le rapport. Le problème encyclopédiste, qui trop embrasse mal étreint. Alors ça, c'est pas facile de lutter contre ça. Faut être très clair, parce qu'à chaque fois que je discute avec des gens de programme, il y a toujours quelqu'un qui vous dit que si on met ça, il faudrait aussi mettre ça. C'est pas facile. Mais je crois qu'il faut, avoir le courage, dans la conception des programmes, de se limiter et de ne pas tout traiter. Et de ne pas traiter beaucoup de sujets qui sont des sujets importants. Il faut absolument se battre contre l'encyclopédisme. Deuxièmement, qu'est-ce que disait un peu notre rapport? Il disait, au fond, cet enseignement a deux objectifs. Et ces objectifs ne sont pas nécessairement contradictoires. La première, c'est de connaître le monde, d'apprendre aux jeunes gens, qui ne connaissent quand même pas grand-chose sur le monde dans lequel ils vivent, de leur apprendre à connaître un peu le monde social. Et puis deuxièmement, il faut quand même leur donner quelques rudiments d'apprentissage. Il faut les aider aussi un peu à penser le monde, à leur donner quelques concepts. Et donc l'idée qu'on avait, qu'on a exprimée dans le rapport, on n'était pas du tout chargé de définir les programmes, je tiens à le dire, mais c'est une sorte d'avoir une sorte de construction matricielle des programmes où on mettait en quelque sorte en horizontale des objets. L'entreprise, c'est un objet, par exemple. Les marchés, ça peut être un objet, je sais où on peut mettre. Hein. Et objet, par ailleurs, ce que je voulais dire, sur lequel on pouvait croiser les regards. Hein. L'entreprise, c'est évident qu'il faut un regard de sociologie, et un regard d'économie, ça a vraiment beaucoup de sens. Donc il fallait prendre des objets horizontaux, et d'autre part, essayer d'introduire un certain nombre d'idées un peu élémentaires, en faisant des choix, des concepts fondamentaux. Et ça, de mettre en vertical, et d'expliquer l'intérêt de ces concepts lorsqu'on se promenait dans ces objets. Alors c'est facile à dire, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. La réforme des programmes qui a été mise en place, et dont il faut souligner effectivement le caractère... Moi je pense que si on veut refaire des programmes, c'est pas sûr qu'on réussisse, même en y passant du temps, mais je crois qu'il fallait passer beaucoup plus de temps, bien entendu. Je crois qu'il faut solliciter toute la créativité, toute l'imagination des communautés, à la fois des professeurs de SES dans le secondaire, mais aussi des universitaires. Il faut faire un appel d'offres gigantesque. Et ça prendrait sûrement beaucoup plus de temps. Mais si vous voulez, dans ma matrice, il y a deux choses. Les objets, pour moi, c'est un petit peu ce qu'on apprenait au Sciences Po autrefois, quoi. C'est-à-dire qu'on vous fait une description littéraire du monde, on vous apprend à connaître le monde un petit peu comme ça. Et puis, les concepts, vous savez ce que c'est. Donc, autrefois, malgré tout ce qu'il y avait dans les manuels, dans les cours, c'était quand même plutôt la conception objet, sans beaucoup de croisement avec les concepts, en tout cas pas visible, pas systématique, et avec une des critiques qui a été faite et qui était relativement juste, quoi, qui conduit quand même à un relativisme. C'était une des critiques qui avait été faite, bon, on peut l'accepter ou non. Hein. Et là, on est passé à l'autre extrême, c'est-à-dire qu'on a des programmes qui sont fondés uniquement sur ce que j'ai appelé le vertical. Moi, je crois qu'il aurait été raisonnable de croiser les deux. À nouveau, c'est très difficile de faire une réforme très ambitieuse sur ce sujet dans le laps de temps qui a été donné aux commissions qui se sont réunies. Voilà, je m'arrête là.
Merci.